Merci d'écouter France Inter, il est 7h. Bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 11 juillet. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, La République en marche à l'épreuve des municipales. Le rassemblement s'annonce difficile à Paris autour de Benjamin Griveaux, désigné officiellement hier soir. Et toujours pas d'accord en vue à Lyon. Les autres titres, Agnès.
Les syndicats de Conforama espèrent en savoir un peu plus aujourd'hui sur le véritable plan de la direction. Les anciens interprètes de l'armée française restent la cible des talibans en Afghanistan. Et puis le désarroi des agriculteurs bretons alors que les algues vertes prolifèrent sur les plages.
Les invités de France Inter ce matin, 7h45, la lanceuse d'alerte autour des bébés nés sans bras, Emmanuel Amar, avec la publication d'un rapport très attendu aujourd'hui sur cette question. 8h20, le grand entretien de la matinale avec le patron d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. Parviendra-t-il à fédérer tous les marcheurs autour de lui? La mission ce matin s'annonce difficile. Benjamin Griveaux a bien été désigné hier officiellement et ses premiers mots ont été pour appeler au rassemblement et à la création d'un collectif dans lequel, dit-il, Cédric Villani aura toute sa place. Mais c'est bien là que le bât blesse. Le candidat malheureux qui faisait jeu égal dans les sondages avec Benjamin Griveaux a visiblement du mal à s'y résoudre, Karine Bécard.
La Commission nationale d'investiture a fini par trancher, sans surprise, pour l'archive favori. Marie Guévenoux, la coprésidente de la CNI.
Nous avons décidé d'investir Benjamin Griveaux.
Tout devrait être réglé, sauf qu'en fait, rien ne va plus. Pourquoi ? Parce que le candidat Cédric Villani, certes, reconnaît sa défaite, mais il refuse de se rallier à l'heureux élu. Benjamin Griveaux, pour l'instant, fait mine d'être bienveillant.
Quand vous avez mené un combat avec fougue, avec détermination, comme l'a fait Cédric ces dernières semaines, il est normal d'avoir un temps de déception. Je le respecte absolument.
Et il lui laisse quelques jours, enfin non, quelques heures, pour accepter de se ranger. Le coprésident de la CNI, lui, Alain Richard, se montre plus ferme et assez peu patient.
Il nous avait dit, les yeux dans les yeux, qu'il serait solidaire de la décision et qu'il participerait à la campagne commune. Donc je pense qu'il va se reprendre et je pense qu'il faut qu'il soit attentif à l'effervescence de son entourage.
Sinon, Cédric Villani pourrait être exclu du mouvement. Marie Guévenoux tente de calmer le jeu.
Nous n'en sommes pas là, donc c'est pas le sujet.
Un petit peu quand même, parce que dès hier soir, l'un des adjoints d'Anne Hidalgo appelait Cédric Villani sur les réseaux sociaux à venir la rejoindre dans sa campagne.
Cédric Villani décidément très courtisé. Gaspard Ganzer, autre candidat à la mairie de Paris, propose également au mathématicien et a eu grand son de le rejoindre. Paris, mais aussi Lyon. David Kimmelfeld a qualifié hier la proposition de Gérard Collomb d'irrespectueuse et illisible. L'ancien ministre de l'Intérieur proposait un ticket pour un mandat en 2 temps. Gérard Collomb aurait passé la main à son dauphin en cours de mandat. Refus net hier de David Kimmelfeld. La date d'un dîner à 3 avec Emmanuel Macron n'a toujours pas été fixée. Et puis on apprend ce matin que Nicole Klein, la directrice de cabinet de François de Rugy, a démissionné à la demande du ministre. Elle l'annonce à Ouest France. Cette directrice de cabinet aurait occupé pendant plusieurs années un logement social à Paris dans le 14e arrondissement.
7h03, France Inter, l'heure de vérité pour les salariés de Conforama.
Les syndicats ont rendez-vous avec la direction pour un CCE très attendu après les annonces d'un plan social qui touchera 1900 salariés et entraînera la fermeture d'au moins 36 magasins, dont celui de Vitry-sur-Seine, ouvert il y a près de 40 ans. 80 vendeurs et conseillers y travaillent. Maxime Deps les a rencontrés.
Manager et délégué une salle à Aury à Seine entend depuis une semaine que si son magasin va fermer, c'est la faute d'Internet et d'une demande qui aurait changé. Pour lui, c'est se moquer du monde.
Se cacher derrière Amazon et derrière ceci, cela, ça c'est de la foutaise. C'est une histoire de cash. Conforama est propriétaire des murs. En vendant à un promoteur immobilier, c'est tout de suite 30-40 millions qui rentrent tout de suite dans les caisses. C'est une opération purement spéculative. Puis c'est tout. Quoi.
Car selon lui, le magasin de Vitry-sur-Seine, situé à l'entrée de Paris, est le seul magasin d'ameublement à 10 km à la ronde. Les clients le plébiscitent et s'inquiètent à entendre Nadia Nattier, déléguée CGT.
Les clients nous posent des questions. Ils ont vu les infos. Conforama va fermer. Et vous ? Ben, je sais pas.
Les syndicats de se demander surtout ce que les vendeurs et conseillers vont devenir de.
Il y a quand même 4 couples, 4 conjoints qui travaillent ensemble ici dans ce magasin. Il y a une dizaine de femmes seules qui élèvent des enfants. Ça va être très compliqué pour eux.
Emmanuel, vendeur qui a fait sa carrière ici, ne pensait lui pas vivre ça un jour chez Conforama.
25 ans que je travaille, 25 ans que je donne les samedis, les dimanches. J'ai pas vu grandir mes enfants, ils me l'ont reproché. Et voilà, ça va finir comme ça. Mais on va se battre, on va continuer à se battre.
Se battre dans l'espoir d'une reprise, se battre pour obtenir un chèque à la hauteur des sacrifices. Le CCU du jour aura des allures de première manche dans le combat de ses salariés.
Et un plan de départ volontaire à Sud-Ouest, 132 postes supprimés, dont 18 postes de journalistes. Si nous ne faisons pas des économies, nous ne passerons pas l'année 2021, explique la direction qui entend développer les services numériques. Et puis le mouvement des Gilets jaunes n'a pas entraîné de catastrophe pour les commerçants, selon une étude du cabinet Altares. Le nombre de défaillances d'entreprises a même atteint son niveau le plus bas au deuxième trimestre de cette année. Les violences conjugales en France ont entraîné l'an dernier la mort de 149 personnes, 121 femmes, 28 hommes, chiffre révélé par le ministère de l'Intérieur. Et les services de police et de gendarmerie ont également cherché à savoir à travers les rapports d'enquête si certains signaux d'alerte avaient pu être négligés. Emmanuel Leclerc.
Le rapport annuel rendu public par la police et la gendarmerie permet de voir qu'un certain nombre de morts violentes au sein des couples avaient fait l'objet d'antécédents de violence. Michel Laveau est le directeur du service de communication de la police nationale.
On cherche les antécédents, soit parce que l'enquête découvre que la personne avait déjà, l'auteur avait déjà été condamné, l'auteur ou alors avait déjà été interpellé, la victime avait déjà fait appel à son domicile à une unité de gendarmerie ou de police, donc on a ces éléments. On a aussi, parce que bien souvent il y a une libération de la parole après malheureusement les faits, et le cercle familial déclare dans l'enquête sur procès-verbal qu'il y a eu des faits antérieurs, ou malheureusement aussi au gré des examens médicaux. Donc on a, pour 2018, 54 victimes qui avaient été l'objet de violences.
L'objectif du ministère de l'Intérieur est donc de permettre d'améliorer encore la libération de la parole sur les violences au sein des cercles familiaux, avec un meilleur accueil dans les commissariats ou les gendarmeries, plus de psychologues et d'assistantes sociales, en partenariat avec des associations. Il y a enfin les outils technologiques comme ces appareils qui sonnent quand l'un des conjoints reconnus violent s'approche à une certaine distance de son épouse ou de son ex-compagnon. Une mesure à l'image des bracelets électroniques encore au stade expérimental en France.
Et le nombre de féminicides pour cette année est en hausse. 76 depuis le début de cette année selon un collectif contre 64 à la même période l'an dernier.
Il est 7h07, Agnès. Le quotidien toujours aussi difficile des anciens interprètes de l'armée française en Afghanistan.
Ils ont travaillé durant des années aux côtés des forces françaises et se retrouvent à présent sans protection. Paris ne délivre des visas qu'au compte-gouttes et les attaques contre ces hommes, considérés par certains comme des traîtres, sont récurrentes. La maison de Saïd Abbas, qui a été interprète de l'armée française durant 8 ans, vient ainsi à Kaboul d'être la cible d'une attaque violente. Sonia Ghezali l'a rencontrée dans la capitale afghane.
Le portail bleu turquoise de Saïd Abbas est perforé de 4 trous près de la serrure. Il était 23h quand des hommes se sont présentés chez lui.
Quand ils ont frappé la porte, il m'a demandé d'ouvrir la porte immédiatement. Et moi j'ai demandé qui vous êtes. Il m'a dit juste ouvre la porte, sinon on va vous tuer. Et ils ont commencé à tirer. Et ils parlaient entre eux que c'est sa maison. Ça j'ai entendu, c'est sa maison.
Personne n'a été blessé cette nuit-là, mais Saïd est terrifié.
Le matin jusqu'à la nuit, là où on sort, où on revient, c'est toujours on attend qui va nous tuer. Et cette peur, c'est toujours dans le cœur. J'ai changé les horaires de sortir de chez moi et de revenir.
L'ancien interprète a envoyé sa femme et ses 3 enfants chez ses beaux-parents qui vivent dans un autre quartier. Dans le sien, les attaques ciblées contre des employés d'ONG internationales ou du gouvernement se sont multipliées ces derniers mois. Le policier responsable du contre-terrorisme dans ce secteur de la ville confirme.
Ceux qui travaillent pour les ambassades, les ONG, les Nations Unies ou avec des policiers sont accusés de traîtrise, d'espionnage par les groupes terroristes. C'est plus facile pour eux d'attaquer les Afghans qui travaillent pour les étrangers que de s'en prendre aux étrangers.
Saïd Abbas passe désormais ses nuits sur le toit de sa maison à monter la garde dans la crainte du retour de ses agresseurs. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Au moment où la France s'apprête à adopter définitivement aujourd'hui l'instauration d'une taxe sur les GAFA, Donald Trump voit rouge. Le président américain vient de demander l'ouverture d'une enquête, un processus qui pourrait déboucher d'ici un an sur des rétorsions commerciales avec notamment des droits de douane sur certains produits français. Pascal Canfin décroche la présidence de la commission chargée de l'environnement au Parlement européen. L'écologiste Karima Delli conserve de son côté la commission transport et tourisme et l'insoumis Younous Omarjee a de son côté obtenu la présidence de la commission chargée du développement régional. En revanche, les candidatures des 2 élus du Rassemblement national ont été bloquées par les autres groupes politiques. L'environnement et l'épineux problème des algues vertes en Bretagne, un phénomène en recrudescence cette année avec la mort suspecte d'un jeune ostréiculteur dans le Finistère. Dans la baie de Saint-Brieuc, les marées vertes sont 8 fois plus plus importante que l'an dernier à la même période. À chaque fois, l'agriculture intensive est pointée du doigt, une situation mal vécue par les agriculteurs. Reportage dans les Côtes d'Armor de Sébastien Sabiron.
Agriculteur fraîchement retraité, Jean-Jacques René garde un souvenir douloureux de sa première rencontre avec les algues vertes.
Nous, à Binic, dans les années 70, on avait déjà des algues vertes. On avait des manifestations avec 5000 participants. On savait plus où on se mettre. On n'osait plus aller dans une salle publique.
Désormais élu à la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor, il se bat à la fois contre les algues vertes et contre les préjugés.
C'est difficile le matin de se lever et puis d'entendre sans arrêt que s'il y a des algues vertes, c'est de la faute des agriculteurs. S'il y a des problèmes environnementaux, c'est de la faute des agriculteurs. Les agriculteurs de cette région, ce sont les premiers en France à s'être engagé sur la qualité de l'eau.
Moins de lisiers, moins de surépandage des cultures. De fait, depuis une quinzaine d'années, les concentrations de nitrates dans les cours d'eau baissent continuellement, ce qui n'empêche pas les marées vertes. Sylvain Ballu du Centre de recherche et de valorisation des algues.
Pour le phénomène de marée verte, ce qui compte, c'est pas uniquement la concentration, mais c'est l'apport total. Alors quand on a des phénomènes comme cette année avec des orages importants en juin, les cours d'eau vont apporter beaucoup de litres par seconde, et même si la concentration est plus basse, ça fait quand même des kilos d'azote qui arrivent pour permettre aux algues de faire leur croissance.
Et s'ils promettent de poursuivre les efforts, impossible, disent les agriculteurs, d'éliminer totalement les rejets de nitrates sans mettre leur activité en péril. Saint-Brieuc, Sébastien Sabiron, France Inter.
Première étape de montagne pour les coureurs du Tour de France. Pour cette sixième étape, 160 km entre Mulhouse et la planche des Belles-Filles dans les Vosges. Et un Français peut en cacher un autre. Si Julien Alaphilippe est toujours en jaune, le régional de l'étape, Thibaut Pinot, rêve de s'imposer chez lui.
C'est le plus ancien festival de France. Pour son 150e anniversaire, les Corégies d'Orange s'ouvrent à la musique techno.
Et ce soir, le public va donc pouvoir découvrir une œuvre du DJ américain Jeff Miles. Stéphane Capron a assisté hier soir à la répétition générale dans le théâtre antique.
Rossini et Mozart cèdent leur place le temps d'une soirée à Jeff Mills, l'un des pionniers de la musique électro. Le compositeur originaire de Détroit a été le premier DJ à travailler avec des orchestres symphoniques. Une façon pour lui de ne pas se laisser enfermer dans un seul genre musical. Ce soir, il a rendez-vous avec l'orchestre régional Avignon-Provence, sous la direction de Christophe Mangou, et l'osmose semble parfaite.
We've had rehearsal yesterday and I mean they
La répétition d'hier soir s'est très bien déroulée, les musiciens ont parfaitement assimilé la partition, ils ont bien compris la signification des morceaux et le concept. Je suis un compositeur vivant, je suis présent devant eux, ils participent à la création avec moi, je sais que c'est spécial pour eux. La qualité sonore est exceptionnelle ici. Je suis impatient de jouer ici devant le public car l'acoustique est extraordinaire et le lieu est magique.
Programmer ce concert Jeff Mills est un sacré pari pour les Corégies d'Orange au moment d'aborder leur 150e anniversaire. L'édition a débuté sur les chapeaux de roue le week-end dernier avec une soirée espagnole et la star Placido Domingo qui a 78 ans assure ne pas vouloir prendre sa retraite. Ce soir, le théâtre antique d'Orange risque d'être un peu plus vide. Il y a encore plusieurs milliers de places à vendre.
Jeff Mills avec l'orchestre régional Avignon-Provence. Et donc ce soir à 21h30.
Rendez-vous est pris. C'était le journal d'Agnès Soubiran.